Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 49e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce qu'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'elles soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musicales et techniques. Avoir parlé de musique venue de Jamaïque, d'abord le ska puis le rocksteady, puis le reggae et le dub, après avoir parlé ensuite de punk rock, du lien entre les deux cultures matérialisé entre autres par une des premières formes de ce qu'on a appelé post-punk, continuons aujourd'hui avec une autre forme de ce dernier, aussi inspirée par les skanks jamaïcains. Aujourd'hui nous parlons de ska, enfin de sa forme revival des années 70, c'est bien sûr le two-tone. Cette histoire commence donc en Angleterre, même si ses racines viennent également bien sûr de Jamaïque. Vous le savez, en 59, cette dernière obtient son indépendance de l'Empire britannique. Dans la foulée, le ska naît, puis ses enfants et petits-enfants, le rocksteady, le reggae et le dub. Le Royaume-Uni, post-guerre, lui, avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays détruit par les bombardements et fait donc appel aux populations de ses colonies. Et cette immigration continue même après l'indépendance de ces dites colonies. Ce sont donc des milliers de personnes non blanches, venant notamment des West Indies, dont la Jamaïque, qui viennent habiter le pays aux côtés des blancs, ramenant leur culture et leur musique, créant aussi des tensions raciales. Nous l'avons vu avec la montée du National Front et la récupération par l'extrême droite de la culture skinhead, à la base une culture prolétaire qui faisait fi de la couleur de peau ou de la nationalité et profondément antiraciste et très tournée vers la culture musicale jamaïcaine.
This is your boss, Skinhead speaking, on the Skinhead train to Rainbow City. Sit back, relax, have a coke, crack a joke, put on your dancing shoe and listen while your boss, Skinhead, suck it to you. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. Skinhead train bound for Rainbow City. Skinhead invasion. You man and dad, teeny boppers.
En parallèle donc se développe le mouvement punk, né aux États-Unis et ayant explosé sur les îles britanniques en 77. Un mouvement de jeunes désabusés par la société mêlé à une sorte de rébellion adolescente, avec une bande-son bien vénère et saturée derrière.
Bye.
les soirées punk, des DJ comme Don Letts, d'origine jamaïcaine, diffusent du reggae et du dub pendant les changements de plateau entre deux groupes, ce qui crée une connexion entre les deux genres musicaux et qui influencera les punks dans leur musique, créant le punky reggae. Bref, ça c'était pour rappel. Je vous invite à écouter les épisodes sur ces sujets si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant que les deux cultures s'entremêlent et avancent ensemble, on a un terreau fertile pour un nouveau mouvement qui va prendre d'assaut le pays et les charts. Et ce n'est pas à Londres que notre histoire commence pour une fois, mais à Coventry, à côté de Birmingham, dans le nord. Pendant la Deuxième Guerre, la ville, concentrant beaucoup d'industries, est bombardée en masse par les Allemands, presque totalement détruite et donc nombreux d'immigrés viendront s'y installer pour travailler à la reconstruction, créant de fait une ville très multiculturelle. Un peu un exemple de vivre ensemble même si ça n'a jamais été vraiment pensé. Ça s'est fait comme ça, naturellement. La ville est même jumelée à Kingston depuis 1962. C'est là qu'un certain Jerry Dammers vit dans les années 70. Jerry rêve de faire partie d'un groupe de musique dès sa tendre enfance. Il adore le rock avec lequel il a grandi. Les Beatles, les Stones, les Kings et surtout son groupe favori parmi les quatre piliers du rock anglais, les Who. Il étudie avec ses copains les coupes de cheveux, les looks ou encore comment le batteur tient ses baguettes. Bref, la musique et les musiciens, c'est sa passion. Grandissant dans les années 60, la musique et la rébellion vont de pair pour lui. Il se met à écrire des chansons très revendicatives de gauche et monte des petits groupes avec ses potes pour les jouer quand il est en fac d'art à Coventry. Il aime le punk bien sûr, mais lui il veut jouer du reggae, ayant été abreuvé de ça par les DJ dans les concerts, et pour lui, c'est d'ailleurs ça qui rendait les concerts de punk supportables. Il se dit donc que ce serait bien de monter un groupe de punk reggae, mais avec des vrais icos de reggae dedans.
This is the dawning of a new era. This is the dawning of a new era. I met a girl from Area 3. Told me she worked at Chicken Factory. This is the dawning of a new era. By 2 o'clock, you were rams and lists.
Ils font donc, enfin, en 77, The Automatics, qui deviendra The Coventry Automatics. Avec lui-même au clavier, Tim Strickland au chant, Linval Golding au chant et à la guitare, Silverton Hutchinson à la batterie et Horace Panther, connu aussi comme Sir Horace Gentleman, à la basse. Strickland est très vite remplacé par Terry Hall comme chanteur et le groupe sera rejoint par Neville Staple, également au chant, et le guitariste Roddy Byers ou Roddy Radiation. Et le groupe change de nom pour The Specials aka. C'est un groupe de musiciens fonctionnels, pas de virtuoses, mais ensemble, ils savent faire de grandes choses. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour la musique. Joy Strummer des Clash assiste à l'un de leurs concerts et les invite à leur tournée, On Parole, ce qui fera connaître The Specials et mettra Coventry sur les cartes. Apparemment, la ville n'y était pas, sûrement pour la cacher aux Allemands par précaution. On le sait depuis les années 40 comment ils sont. C'est une blague, hein, bien sûr, je précise pour les Allemands qui m'écouteraient, vous n'êtes pas réputés pour votre sens de l'humour, désolé. Enfin bref, une autre grande aide à cela fut John Peel, un DJ légendaire de BBC Radio 1, qui est tombé amoureux du son des specials, décrivant un des albums comme un disque qui change votre vie. Vraiment. Et en passera régulièrement sur les ondes, ainsi que des sessions live, faisant connaître le groupe à un large public d'auditeurs autour du pays. Le groupe sort son premier single, Gangsters, mais un disque comporte deux phases. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de thunes pour enregistrer un deuxième titre pour la phase B. Jerry jouait avant dans un groupe avec un certain Neo Davis, qui avait enregistré un titre un an avant, appelé Kingston Affair, un genre de disco dub que Jerry apprécie. Et il lui dit donc que s'il rajoute un rythme ska par-dessus, ça peut être la phase B de Gangsters. Neo renomme donc son titre en The Selector, invente un nom d'artiste, The Selector, et ils font presser le titre derrière le single des Specials. John Peel diffusera donc bien sûr également cette phase B sur les antennes. Le disque Gangsters vs The Selector atteindra la 6e place des charts en septembre 79. Et ce disque annoncera l'arrivée de cette vague de ska revival. On l'a dit, la ville est très multiculturelle et donc les disquaires depuis les années 60 importent des disques des West Indies. Et bon, comme toutes les modes, ça s'efface, ça disparaît un peu. Et Matambi, un groupe londonien, sort Whatever Happened to Blue Beat and Ska. cette chanson touche Damas, qui se dit que c'est vrai. Il est où le ska? Pourquoi pas le ressusciter? Expliquant le changement entre reggae au tout début sous le nom de Coventry Automatics et ska quand ils deviennent The Specials. Ce mouvement revival n'aurait pas pu naître ailleurs que Coventry. Déjà parce qu'il n'y a qu'un seul Jerry Damas. Et puis par la nature même de cette ville multiculturelle. En mai 79, Jerry fonde son label, Two Tone. Avant ça, la fabrication des disques est un peu un mystère pour le grand public. Les gros labels gardent un peu ce secret, ce qui leur confère un certain pouvoir sur les artistes et les groupes. Ils contrôlent leur son, ils les obligent à le changer pour être le plus rentable possible, même si le groupe n'avait pas vraiment envie, ou même leur style vestimentaire. Mais avec des mouvements comme le punk, prenant le do it yourself, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. D'un coup, plein de gens, dont Damas, découvrent qu'ils peuvent éditer des disques eux-mêmes, créer leurs labels indépendants et ainsi garder le contrôle de leur image et de leur art. Et puis fonder son propre label, c'est aussi un peu officialiser tout un mouvement. C'est dans cette dynamique que Two Tone naît. Comme le groupe The Specials, le label représente la multiculturalité. Le mouvement est d'ailleurs né en même temps que Rock Against Racism et est profondément antiraciste et le revendique. Le but, c'est de mélanger des blancs et des noirs, d'où le motif en damier noir et blanc, et le nom Two Tone, deux tons. Et c'est dans l'appart de Damas que tout ce petit monde traîne et pense leur musique. Cet appart à Coventry est devenu maintenant un lieu historique, avec une plaque sur la façade disant « lieu de naissance du Two Tone ». Le génie de Jerry Damas là-dedans, c'est qu'il a su réunir des gens très éclectiques. Il y avait Neville le Rude Boy, Roddy le Rockab, Lenvo le Reggae Man, Horace le Prof, Terry le Punk, pour ne citer que. Et c'est Horace qui a convaincu Terry Hall de quitter son groupe de punk, Squad, le premier groupe de punk de Coventry. Harry n'est pas le meilleur chanteur du monde, très loin de là. Mais ce qui fait sa force, c'est sa voix très reconnaissable. Et revenons donc sur leur début. On l'a entendu, au début le groupe fait plus du reggae que du ska. C'est pendant leur tournée avec les Clash en 78 que Jerry a une illumination. Et le groupe abandonne son rythme de reggae lent pour du ska plus rapide et énergique. Ce tempo plus rapide du ska des années 60, Jerry comprend que ça se mariera beaucoup mieux avec ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire le punk, c'est-à-dire une musique rapide et énergique aussi. Quand la musique des Caraïbes est arrivée en Angleterre, les gens ont trouvé ça sympa, joyeux, alors que ces musiques sont très souvent très politiques, et c'est ça qui a influencé les Specials et les Two Tone. En reprenant le ska, ils reprenaient toute une idéologie et des revendications dans les paroles. Et ça tombait très bien, car vivre au Royaume-Uni dans les 70s, c'était vivre une certaine frustration politique. Thatcher arrive au pouvoir en mai 79. Le pays connaît des tensions raciales depuis quelques années et une montée de l'extrême droite avec le National Front. Des skinheads nazis, et c'est pas une hyperbole, hein, ils faisaient littéralement des saluts nazis et arboraient entourée des symboles du Troisième Reich, sillonne et terrorise les villes et surtout les populations non blanches, les frappant et même les tuant. Et même à Coventry, qui, je le rappelle, représentait l'espoir multiculturel post-guerre. Et c'est dans ce contexte que Jerry se dit « Ok, il y a une sorte de résurrection du mouvement skinhead, donc peut-être qu'en leur offrant la musique qu'ils écoutent à la base, une musique à laquelle ils peuvent s'identifier, avec des messages antiracistes dedans, un truc positif, ça peut les faire changer. » Et là, des gens qui ne se parlaient pas normalement se retrouvent tout d'un coup à fréquenter les mêmes lieux et danser devant les mêmes groupes ensemble.
Buster, he sold the heat with a rock steady beat. An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost dance is preparing, you got to help us with your feet. If you're not in a mood to dance, step back, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. I bust the phone me over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. So I say there's nothing left to say for the man who's dead to beat. So I'll leave it up to you out there to get him back on his feet.
Et bien sûr, il n'y avait pas que The Specials, sinon ça n'aurait pas été un mouvement. Il y avait aussi d'autres groupes, on a abordé brièvement The Selector, on les reverra après. Mais il y avait aussi Madness bien sûr, le seul groupe uniquement blanc du Two Tone d'ailleurs, qui s'est formé à Camden Town, au nord de Londres, en 76, un an avant les Specials, ayant indépendamment eu l'idée similaire de ressusciter la musique jamaïcaine avec laquelle ils avaient grandi. Il y a ensuite les Beats à Birmingham, fondée en 78. Entièrement féminin, The Body Snatchers, formé en 79 à Londres. Bien sûr, The Selector, en 79, qui s'est formé après le titre instrumental The Selector de Neil Davis sur la face B de Gangsta, pour pouvoir le jouer sur scène et créer d'autres chansons, et rajouter des paroles chantées par la chanteuse métisse Pauline Black. Pauline était venue à Coventry pour ses études, puis travaillant en tant que radiologiste à l'hôpital de la ville. Elle chantait ses propres chansons dans un club de folk, et un jour a découvert The Selector. Elle s'est dit que c'était super, qu'ils avaient vraiment un truc, et a rejoint le groupe. Sa voix allait parfaitement avec tout ce qu'il faisait, ça marchait super bien. Et Jerry leur a proposé d'enregistrer un single sur son label Two Tone. Un single qui deviendra le plus gros tube du groupe, On My Radio. Mm-hmm. Seulement 5 mois après la création du groupe, Yael se retrouve sur Top of the Pops, un moment assez révolutionnaire pour l'époque. Imaginez, cette société encore bien dirigée par des ultra-conservateurs, avec une industrie télévisuelle qui lui ressemble. Et là, on voit une heure de grande écoute sur l'une des émissions les plus suivies, un groupe de blancs et de noirs, plus spécialement avec deux personnes noires au devant de la scène, parlant un peu de problèmes de société et ouvrant un débat. Notamment là, une critique de la radio à l'époque qui passe uniquement les mêmes trucs vieillissants. Et plus spécifiquement, avec une femme métisse, avec un look très androgyne. Elle est en costard avec un chapeau que normalement les hommes portent. Normalement, les popstars anglaises ne ressemblent pas du tout à ça. Et puis Neo, habitué à regarder l'émission, sait à peu près quel plan les caméras vont prendre et à quel moment. Il pense donc les placements de son groupe sur scène en fonction pour là aussi passer un message de tolérance et de multiculturalisme, insistant par exemple pour que lui, le guitariste, blanc, et Charlie Anderson, le bassiste, noir, soit à côté et ait un micro pour deux pour chanter les chœurs, offrant ainsi à l'image les deux côte à côte. En novembre 79, le mouvement revival du ska, le two-tone, est devenu mainstream et inonde toutes les radios, télé, disquaires et donc tous les foyers britanniques.
Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.
Mais on continuera cette histoire la prochaine fois. Et oui, le temps imparti est écoulé. Promis, on parlera du style vestimentaire, très important pour ce mouvement aussi. Et de la suite pour tous ces groupes qui n'ont pas forcément duré longtemps pour certains, mais qui ont clairement marqué profondément l'histoire de la musique britannique et mondiale. Swap Culture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM bien sûr. Sur radiofmplus.org, via l'onglet Écoutez le direct ou via les applis Radio Line ou les radios associatives. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents en podcast toujours sur radiofmplus.org en écoute et téléchargement gratuit et illimité. Et moi je vous dis bye bye, see ya next time, put on your dancing shoes and enjoy this rocksteady beat.